Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. En 31 avant Jésus-Christ, Octave, qui se fit appeler Octavien, devint le seul maître du monde romain, et c'est en 27 avant notre ère qu'il reçut le titre d'Auguste, après avoir pensé prendre celui de Romulus, c'est dire qu'il s'est vécu comme le refondateur de Rome. Après des décennies de guerre civile, l'arrivée au pouvoir du jeune triumvir, qui fut mêlé aux pires atrocités, ne présageait rien de bon. Afin de calmer les esprits, Octavien eut l'idée géniale de reformer et de ressouder le peuple romain sous l'égide du pouvoir religieux et au nom de la Rome éternelle. Cet objectif s'accomplit au-delà de toute espérance et Rome retrouva la paix et son éclat sous le règne de l'empereur Auguste, protecteur des arts. Le cours de John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique, porte sur les limites de la ville de Rome. On savait depuis longtemps que Rome avait une première frontière, scandée par des temples et des lieux de mémoire au premier mille, c'est-à-dire à environ 1,6 km du cœur de la ville. Mais on a longtemps pensé qu'une autre limite bornait la ville au 5e ou 6e mille. Cette frontière était, pensait-on, presque aussi ancienne que la première et remontait au début de la royauté. John Shedd démontre ici que cette seconde limite de la ville de Rome est en fait une réécriture de l'espace par Octavien. Alliant en effet tradition et innovation, l'espace créé par Auguste vise à montrer comment il incarne à la fois la modernité et le passé le plus ancien de Rome. Les savants antiquaires qui travaillèrent pour l'empereur récupérèrent des mythes qu'ils reconstruisirent sur fond d'étymologie sommaire. Ils élaborent des cultes en utilisant d'anciennes légendes et des restes de liturgie, et ils refondent des confréries religieuses comme celle des Arvales ou encore celle des compagnons de Titus. Ces antiquaires augustéens redonnent leur charge symbolique de purification à certaines limites, comme celle incarnée par les fossés Cluiliae. Ils réorganisent les rites et renouvellent d'anciennes fonctions sacerdotales, inventant aussi de nouveaux sacrifices. Il ne s'agissait pas seulement de refaire le marquage de la ville, car nombre de ces restaurations pouvaient se trouver à bien plus de 5 ou 6 milles de Rome, mais surtout de redonner à Rome sa place de métropole incontestée et de répondre à un besoin profond du peuple tout entier, puisque dans l'ancien monde romain, l'espace était à la fois religieux et politique. Ce soir, John Shedd s'intéresse à ces lieux situés très au-delà des limites des 5e et 6e milles de Rome, à Lavinium par exemple. Écoutez.
C'est en effet entre les années 47 et 54 de notre ère que fut gravée l'inscription de Pompéi qui honore un certain Spurius Turanius Proculus Gellianus, un chevalier romain de son état. Ce Turanius a été, d'après son inscription, dum vir pour dire le droit à Lavinium, c'est-à-dire chef de cette communauté, l'un des deux magistrats suprêmes, et il a gouverné la cité pendant un an avec un collègue. Puis il fut pater patratus, c'est un titre sacerdotal, pour le traité qu'il faut conclure avec le peuple romain en vertu des livres sibyllins chaque année. Et enfin, dans le cadre des rites originels du peuple romain, je traduis, et de la nation latine, il a occupé le Flamina de Jupiter, le Flamina de Mars, il a été Salien président, augure et pontife. Une deuxième inscription du même personnage provient de Pratica d'Imar, et qui est le nom du site de l'Avinium, et atteste les premières activités de ce Turanius à l'époque de Tibère, puisque la dédicace a été faite en 36-37 de notre ère. Il est Flamine de Jupiter, Flamine de Mars, préfet pour dire le droit, dans la ville de Lavinium. Toutes ces fonctions politiques et religieuses exercées successivement montrent bien qu'à cette époque, c'était des Romains qui jouaient le rôle des locaux, des habitants du peuple de Lavinium. On en connaît d'ailleurs un certain nombre après ce Turanius, qui est le premier. Qui a créé ou recréé ce peuple virtuel ou rituel ? Il est vrai que, comme celle des Laurentes Lavinates, les inscriptions des autres prêtres romains des cités latines datent plutôt de la fin du 1er et généralement du 2e siècle de notre ère, et même plus tard. Si nous n'avions pas, dans certains cas, des listes épigraphiques qui attestent les célébrations dès le début de notre ère, nous ne pourrions nous fonder que sur les sources littéraires pour attribuer à Auguste l'institution de ces rites. Pour Lavinium, en revanche, l'inscription de Turanius résout la question. Il exerce ses premières fonctions sous Tibère. Or, nul n'imagine Tibère comme restaurateur des rites de Lavinium. Il ne s'est, en général, pas occupé de ce genre d'affaires. Si en 36-37, Turanius a déjà derrière lui au moins trois fonctions à Lavinium, il est probable qu'il s'agisse d'une restauration augustéenne, à moins de supposer que toutes ces fonctions aient déjà existé à l'époque républicaine et qu'il s'inscrit simplement dans la continuité, que c'est par hasard que son inscription est le premier document qui nous soit parvenu. L'inscription de Pompéi mentionne un oracle sibyllin pour la conclusion annuelle du traité avec Lavinium. Je l'ai souligné, n'est-ce pas ? Il est père Patra, c'est le chef des Fétiaux, de Fétiales de Lavinium, du peuple des Laurentes, pour frapper le traité. C'est ce qu'on disait, n'est-ce pas ? On frappait un porc sacrificiel et on disait que je sois frappé de la même manière que ce porc si je manque à ma parole. C'est pour ça qu'on dit qu'on frappe un traité. Et c'est fait ex libris sibyllinis, d'après les livres sibyllins, ce qui est extrêmement intéressant. L'inscription mentionne donc un oracle sibyllin. Cet oracle n'est mentionné ni par l'historien Tite Live, ni par aucune autre source. Date-t-il de l'époque républicaine, au moment où on a créé ces obligations, de celle de l'époque d'Auguste ou de l'époque de Claude ? Nous l'ignorons. La première inscription de Turanius ne mentionne pas la dignité de pater patratus pour frapper le traité que cite celle de Pompéi, qui est plus tardive. On la date d'après ce F inversé, qui est une lettre inventée par l'empereur Claude. Et on sait que ça s'est passé entre, vous voyez cette lettre-là, dans le fac-similé, c'est un W vocalique. Et l'empereur Claude, qui était un intellectuel, a obligé les Romains à écrire de cette manière pendant une période donnée. Et c'est uniquement quand il était empereur. Après, les Romains ont repris leurs habitudes. Pour nous, c'est extrêmement pratique parce que ça nous date des inscriptions entre 48 et 54 de notre ère. C'est pour cela qu'on peut le dater si précisément. La première inscription de Turanius, en revanche, ne mentionne pas cette dignité de responsable du traité que cite celle de Pompéi. Est-ce un oubli ? Ou bien faut-il, par exemple, restaurer le titre de Pater Patratus dans la lacune qui existe dans le texte devant Flamen Martialis ? Peut-être. L'ordre des titres lavinates de l'inscription ne coïncide pas, en tout cas, avec ceux du texte de Pompéi, car ici, la préfecture, pour dire le droit, est mentionnée en fin de liste. Je pense que ces incertitudes ne sont pas suffisantes pour attribuer l'oracle sibyllin à l'époque de Claude. Je pense plutôt que le nom complet du traité entre Lavinium et Rome, qui comprend la mention de l'oracle, est d'origine républicaine ou augustéenne. Pourquoi ce titre ne serait-il pas augustéen? Si c'était le cas, en tout cas, nous serions en fait devant le même processus que pour la création, et pour le dire en termes augustéens, pour la réactivation des jeux séculaires effectués en 17 avant notre ère et qui se fit elle aussi sur la recommandation d'un oracle sibyllin. Il est très possible que le site de Lavinium et la célébration régulière des rites consulaires et sacerdotaux à Lavinium aient fortement souffert pendant le dernier siècle des guerres civiles et aient nécessité une intervention. Nous avons vu qu'Octavien avait créé au début de son principat les Sodales de Titus, dont les activités se déroulaient vraisemblablement en partie à Lavinium. Et dans la décennie suivante, Virgile allait donner avec l'Énéide au site de Lavinium un lustre qu'il ne perdra plus. Est-ce pendant cette décennie qu'Auguste a réinventé, éventuellement avec l'aide d'un oracle sibyllin, le rite de la conclusion du traité entre Lavinate et Romains, ainsi que les magistrats et prêtres de Lavinium, qui étaient tous des chevaliers romains? C'est parfaitement possible. Je ne puis imaginer qu'Auguste, qui attachait autant d'importance à Albe, à Caenina, au Sodales Titii, ait passé sous silence le site de Lavinium. Ce serait pour le moins surprenant. Et cela d'autant plus qu'à quelques kilomètres du site de Lavinium se trouvait le Vicus Augustanus, le bourg Auguste, qui doit son nom au premier empereur. Les citoyens de ce vicus s'appelaient les Laurentes du Vicus Augustanus. Il semble que ce vicus, ce bourg, ait eu une organisation municipale et plusieurs dignitaires en sont connus sous l'Empire. Il s'agit de toute évidence d'une création augustéenne et il n'est pas exagéré de supposer que la création de cette bourgade soit liée à l'entretien du site de Lavinium, site musée, qui consistait essentiellement en temples et en ruines. Un vrai lieu de mémoire. D'après un document, Auguste possédait d'ailleurs un domaine à proximité. Il se pourrait même que ce domaine ait été à l'origine du Vicus Augustanus. Même si nous connaissons mal ce vicus, il est probable qu'il ait été lié au site de Lavinium et donne un indice supplémentaire en faveur de l'intervention augustéenne. Je suis personnellement convaincu de la réalité de cette intervention. Autrement dit, les exemples que j'ai analysés, les prêtres d'Albe, de Tusculum, de Lavinium, de Lanuvium, auxquels on peut ajouter le sanctuaire de la famille Julia à Beauvillet, vous vous rappelez, on en a parlé, on en reparlera, démontrent que les restaurations d'Octavien Auguste s'étendirent bien au-delà de la prétendue frontière archaïque de Rome. Elle concernait des lieux de culte enclavés dans le territoire d'autres cités, que ces cités fussent elles-mêmes artificielles ou non. L'essentiel résidait dans la restauration d'obligations religieuses de Rome et sur son territoire. L'espace concerné par ces restaurations donne donc une image plus complète du territoire de Rome, de son espace suburbain. Cet espace ne comprend pas seulement les environs relativement proches de Rome, mais aussi des sites nettement plus éloignés. Au fond, l'espace suburbain de Rome, qui correspond à ce que nous appelons le territoire de la cité de Rome, est constitué par tous les terrains où Rome exerce une activité auquel une obligation la lie. Maintenant, nous allons, avant d'aller plus loin, voir un autre document qui affirme explicitement ce que j'ai essayé de déduire des exemples donnés. Et après avoir examiné ce document, nous regarderons la manière dont le culte était célébré dans tous ces lieux de culte, une chose dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'à présent et qui est extrêmement intéressante et qui nous apprendra d'autres choses dans la manière dont est structuré religieusement ce qu'on appelle, ce qu'Auguste et ses successeurs appellent le territoire de Rome. Avant cela, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler d'une affaire particulière, d'une affaire qui s'est déroulée sous Tibère et qui correspond parfaitement à ce que je viens de vous dire. C'est une histoire assez amusante. Les chevaliers romains avaient fait un vœu à fortune équestre pour la santé physique, valetudo, de Livie. Lorsque l'impératrice fut guérie, il leur revenait d'acquitter ce vœu. Comme son épiclèse l'énonce, Fortune équestre était une divinité particulièrement liée aux chevaliers. Georg Wieshove parle d'une sorte de protectrice, de génie des chevaliers. Fortune, quant à elle, était une protectrice traditionnelle des matrones, des femmes. Donc, les chevaliers, une matrone, la première matrone. Nous avons vu au cours des semaines passées que Livie, en tant que première matrone romaine, avait restauré le temple de Fortuna des femmes, Fortuna Muliebris, qui était situé au 4e mile de la Voie Latine. Un temple de Fortuna Equestris avait été voué à Rome par Quintus Fulvius Flaccus en 180 avant notre ère, au cours d'un, ou pour commémorer, un violent combat de cavalerie mené dans le cadre d'une guerre qu'il dirigeait contre les Gaulois. Le lieu de culte fut dédié en 173 et donna lieu à une querelle fameuse entre le dédicant Fulvius Flaccus, qui était alors censeur, et le Sénat. Le Sénat, réagissant à la plainte des colons locaux, reprochait au censeur Flaccus d'avoir dépouillé le temple de Junon Lassigna à Crotone, en Italie du Sud, en Calabre, de ses tuiles en marbre pour en couvrir son temple de fortune équestre à Rome. Le censeur fut sévèrement réprimandé par le Sénat et celui-ci lui ordonna de faire rapporter les tuiles à Crotone, quand deux siècles où d'ailleurs on n'arriva plus à les mettre sur le toit. C'était une petite colonie à l'époque et ils n'avaient pas les moyens de s'offrir une entreprise de bâtiment capable de soulever des plaques de marbre grosses comme ça, qui pèsent, je ne sais pas, loin, 500 kilos chacune, et qui sont quelque chose de monstrueux. Si vous en avez vu, essayez de les soulever, vous verrez. Et ils ne sont plus arrivés à les mettre sur le toit. Ça, c'est la bonne administration romaine. Le censeur, donc, deux siècles plus tard, maintenant, l'ordre équestre fit son vœu pro valetudine Augustae, pour la santé d'Augusta, la bonne santé d'Augusta, c'est-à-dire Livie, qui depuis la mort d'Auguste et son adoption par son mari s'appelait Julie Auguste. Ses représentants, donc quand l'ordre équestre voulut acquitter son vœu, ses représentants songeaient manifestement au temple de Fulvius Flaccus. Mais au moment d'acquitter leur vœu, les chevaliers découvrirent que ce temple n'existait plus. Cette anecdote offre, soit dit en passant, un bel exemple de la négligence combattue par Auguste. Un temple lié à l'ordre équestre par sa naissance et par la divinité qui le patronnait avait disparu sans laisser de traces. Ou bien, en 180 avant notre ère, les choses en étaient restées aux intentions, à cause du 173 plutôt, étaient restées aux intentions à cause du scandale et puis de la mort de Fulvius qui intervint peu après. D'après les sources, il devint fou, ce qui est normal pour un sacrilège, et il mourut ensuite. Il est donc possible que le vœu de Fulvius n'ait jamais été acquitté, puisque celui qui l'avait émis était mort, et l'obligation peut être avec lui, ou il n'y avait pas d'héritier, ou je ne sais pas quoi. Cela signifierait que l'ordre équestre, en tout cas, n'était pas bien au courant de ses affaires. Ou bien encore, et c'était sans doute plus vraisemblable, un temple avait bien été construit puisqu'un vœu avait été émis, et en général il faut appliquer les vœux, mais ce temple n'était pas bien grand en raison des problèmes qu'il avait suscités et de la mort de Fulvius. Et ce petit temple avait disparu en raison de son délabrement progressif ou dans un plan d'urbanisme postérieur. Négligence, aurait dit Octavien. Bref, pour une raison ou pour une autre, la légèreté de ceux qui avaient formulé le vœu pour la bonne santé de l'impératrice souleva un problème inédit. La question était délicate, en effet. En tant qu'ordre officiel de la cité de Rome, c'est le deuxième ordre de l'État, les sénateurs, les chevaliers avaient fait le vœu à Rome, à une divinité précise, et ne pouvaient donc l'acquitter qu'à une divinité de Rome, au sens juridique étroit, et à une fortune portant l'épiclèse équestris. Il devait d'autre part respecter les termes contraignants du vœu et ne pouvait pas s'en tirer par facilité en offrant le don à n'importe quelle fortune de Rome ou à une divinité qui ne serait pas juridiquement romaine. Un vœu est extrêmement... C'est un contrat. Et on ne peut pas violer, c'est un contrat public en outre ici. On ne peut pas le violer. Donc les chevaliers étaient bien embêtés. Une enquête fut menée, dont Tacite ne donne que les grandes lignes, malheureusement. Sans doute, l'ordre équestre saisit le Sénat ou les pontifes, et ces derniers, de toute façon, ont dû suggérer la solution. On découvrit en effet qu'un temple de fortune équestre existait bien à Antium, Anzio, et qu'il convenait d'y placer le don promis. Antium, aujourd'hui Anzio, était autrefois une cité volsque, latine donc. En 340 avant notre ère, ses habitants avaient participé à la rébellion des Latins contre Rome, et contrairement à l'Anuvium ou l'Avinium, qui étaient plus ou moins restés fidèles, Anzio avait été rudement puni. La flotte d'Anzium fut détruite et 6 becs de proue furent fixés au forum romain sur les rostres, sur la tribune des orateurs que vous connaissez. Contrairement aux autres Latins, qui devinrent tous citoyens romains, Antium devint cité sans suffrage, sans droit de vote, donc puni. Bien entendu, à l'époque de Tibère, cela faisait longtemps qu'ils avaient été pardonnés et étaient devenus colonies romaines même. La région était, dès la fin de la République, une zone de villégiature pour les grandes familles. Elle comprenait même une grosse villa impériale dont vous pouvez voir sur la plage les constructions, les substructures des grandes terrasses donnant sur la mer. Antium possédait donc un temple de Fortuna Equestris, et c'est dans ce lieu de culte que, sur la proposition vraisemblablement des pontifes, les chevaliers romains purent acquitter leurs vœux. Ce qui nous intéresse, c'est la motivation juridique fournie par le Sénat et ou les pontifes en faveur de cette solution. La résolution considérait que dans les villes d'Italie, tous les rites, temples et statues des puissances divines étaient placés sous le droit et le pouvoir romain. Iuris atque imperii romani esse. On pourrait comprendre cette formule comme une expression de l'impérialisme romain. Il est vrai qu'elle proclame la domination romaine exercée sur l'Italie. Mais nous sommes un siècle après la guerre sociale, moment où tous les Italiques ont reçu la citoyenneté romaine pleine, 3 siècles après la défaite et l'humiliation d'Antium et l'affirmation de la souveraineté romaine sur des Romains n'est pas vraiment attendue ici. C'est plutôt un point de vue romain et interne et juridique qui s'exprime dans cette décision. Nous nous trouvons dans le cadre d'une réflexion pontificale à propos de la réalisation d'un vœu romain sur le territoire de Rome, au sens de municipal étroit. Ce que la formule constate, c'est qu'en droit, les divinités des cités d'Italie font partie du droit romain à chaque fois qu'un magistrat romain ou un corps officiel de Rome les implique dans un acte religieux. C'est à ce moment-là qu'ils appartiennent, c'est une enclave de la ville de Rome, en quelque sorte, à cet endroit. Pour ce faire, l'ordre équestre n'a pas besoin d'un processus de romanisation ni d'une autorisation spéciale, puisqu'il agit sur l'ager romanus. Cela n'implique pas forcément qu'il passe par-dessus la volonté locale, ce qui paraîtrait tout à fait étrange à cette date, mais que du point de vue interne romain, l'ordre équestre peut choisir d'acquitter son vœu en toute légalité à Antium, c'est-à-dire en Campanie. Et personne ne viendra dire à Rome « Ah, votre vœu, vous ne l'avez pas acquitté, vous êtes toujours condamné à l'acquitter parce que ça ne compte pas, vous êtes à l'étranger, dans une cité étrangère, parce que juridiquement, Antium était une cité indépendante, même si c'était une colonie romaine. Eux, c'était eux, la ville de Rome, c'était Rome. C'est ce jeu-là dont il s'agit. Or, quand un magistrat romain ou un ordre public décide de faire un acte religieux dans cet endroit, par l'acte même, il crée une obligation de la ville de Rome. C'est ça qui est intéressant dans cette affaire. Autrement dit, cette décision des pontife, mettons, du Sénat et de l'ordre équestre, confirme le fait que la notion de territoire romain, au sens étroit, est vaste et souple, et que depuis longtemps, elle n'est plus en relation avec le cercle étroit du sixième mille de Rome. En outre, la formule confirme ce que les autres documents disent implicitement. Tous les temples, rites et statues des puissances divines sont placés sous le droit et le pouvoir romain. Il suffisait en somme que Rome y agisse religieusement pour que la souveraineté romaine se manifeste dans un endroit donné, qui devenait par ce fait même partie de l'ager romanus au sens étroit, c'est-à-dire suburbain, de banlieue. Ce principe, qui est très intéressant énoncé, il convient de mentionner tout de suite Ostie, la première colonie de Rome, ainsi que Françoise Van Haperen l'a souligné, des autorités de Rome sacrifient régulièrement à Ostie, pas pour Ostie, mais pour le peuple romain. Autrement dit, ils y célèbrent des rites romains en ce sens que ces cultes faisaient partie des obligations de la cité de Rome. C'est ainsi que le 27 janvier, on fêtait à Rome l'anniversaire du temple de Castor et Pollux sur le Forum, qu'on disait aussi le temple des Castors. Tandis que le même jour, un préteur urbain, ou plus tard le préfet de la ville ou un consul, célébrait à Ostie les jeux de Castor et Pollux, ainsi que les jeux de Neptune, ainsi que l'atteste ce poème dédié en 216 par le préteur Catius Sabinus. À l'époque du Haut Empire, les préteurs urbains, qui étaient les chefs de Rome, en fait, c'était quelque chose comme le maire de Rome, si vous voulez, s'occupaient beaucoup des obligations religieuses. Et par un hasard, ces préteurs avaient lancé une tradition qui consistait à rappeler l'accomplissement de leurs rites par des poèmes. On en a, vous vous rappelez peut-être, au Forum Boarium, au temple d'Hercule, où il y a toute une série de poèmes de ces préteurs urbains qui ont célébré le sacrifice obligatoire du calendrier à Hercule. Et ici, il y en a un qui a d'ailleurs laissé quelque chose à Rome aussi, qui vous raconte qu'étant donné qu'il est agréable que des jeux aient été tenus sur vos rivages, aux castors et vénérables Pollux, en échange d'un si grand privilège, j'ai placé devant votre siège, aux grands descendants de Jupiter, la représentation même de la compétition. Donc il devait y avoir une image des jeux. Moi, Catius Sabinus, content d'être distingué des faisceaux urbains, les faisceaux des licteurs, qui sont l'apanage du pouvoir de répression des magistrats de Rome, urbains. C'est en tant que magistrat de l'Urbs de Rome qu'il est là à Ostie, et pas en tant qu'ami ou visiteur, ce n'est pas du tout cela, et d'avoir organisé des jeux pour le vénérable Neptune. Deux autres fêtes, donc 216 de notre ère. Deux autres fêtes peuvent être ajoutées à la précédente. Oui, voilà le temple des Castors qui a été découvert, identifié régulièrement sur le bord du Tibre, qui était lié donc à la navigation. Les Castors protégeaient les navires, c'est une tradition grecque, n'est-ce pas? Donc deux autres fêtes peuvent être ajoutées à celles dont j'ai parlé. Il y eut d'abord un épisode, pittoresque encore, de la vie de l'empereur Claude, qui permet de supposer qu'on célébrait également à Ostie, si l'on suit une hypothèse de Françoise Van Haperen, de nouveau, les Volcanalia, la fête du dieu Vulcain, le 23 août, puisqu'il est dit que le sacrifice auquel l'empereur s'était rendu à Ostie tombait au début de l'automne, ce qui correspond au mois d'août et notamment à la date officielle du début des vendanges annoncées par les Vinalia et que Messaline célébrait à Rome à sa manière. Elle avait profité de cette date pour organiser une grande fête des vendanges dans une de ses maisons à Rome avec son amant et ils ont même fait une sorte de mariage symbolique. Et ça s'est terminé de façon assez tragique pour elle. Le 17 août était aussi célébré les Portunalia, la fête du dieu Portus, dont un texte malheureusement corrompu, c'est des commentaires érudits à l'Énéide, pourrait faire supposer qu'il se déroulait également à Ostie, en tout cas près de la mer, et on peut penser que Claude s'occupait en fait de ces deux ou même trois sacrifices. Donc Vulcain, peut-être les Vinalia, vous rappelez, nous avons vu un texte au cours duquel le Flamine de Jupiter ouvre les vendanges en offrant la première grappe du Latium à Jupiter. Est-ce que l'empereur allait dans un vignoble public quelque part pour assister à cette cérémonie? En tout cas, Portunus, il pouvait aussi se trouver dans le port de Rome, le Portus, pour célébrer cela. C'est possible. Françoise Van Happen a attiré par ailleurs l'attention sur un certain nombre d'autres documents qui attestent l'intervention du Sénat de Rome ou d'un préfet de l'Annon, du ravitaillement de Rome, dans l'attribution d'espaces, dans la construction de murs ou d'autres espaces dans la ville d'Ostie, ainsi que l'atteste par exemple le deuxième temple de Vulcain qui est construit en vertu d'un senatus consult. Où est le terme ex senatus consulto. Quand on écrit ça de cette manière-là, c'est le Sénat de Rome. Hein. Sinon, on parle du conseil de l'ordre des Doumvi, des décurions, etc. Vulcain est à Porto et à Ostie pour une simple raison, c'est l'incendie des greniers à blé. Il y a aussi des pompiers de Rome, une compagnie qui est à Ostie, près, à proximité du temple de Vulcain. Bien, donc deuxième temple de Vulcain qui est construit en vertu d'un senatus consult, donc décision romaine pour construire un temple à Ostie. Pensez à l'histoire des chevaliers à Anzio. Comme il s'agit d'une dédicace de 3 mètres de long, hein, ce n'est pas une petite chose, il ne peut être question que d'un grand temple et non d'une chapelle, et l'intervention du Sénat de Rome est tout à fait plausible dans cette affaire. Ils ne construisent pas des chapelles à Ostie. Quand ils construisent, c'est du gros, c'est des gros temples. Le prétendu Tempietto républicain, qui se trouve à proximité des greniers, des grands greniers de Rome, près de l'ancien castrum au centre d'Ostie, ainsi que les 4 petits temples républicains qui voisinent le théâtre, sont construits, d'après des inscriptions, sur un terrain public appartenant donc au peuple romain et qui a été délimité par le préteur romain Caninius, Gaius Caninius, au IIe siècle avant notre ère. Sinon, un préteur n'aurait pas borné un territoire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il appartient, en vertu d'une décision du Sénat, de nouveau un préteur urbain et il a fait un terrain public, il l'a rendu public, c'est-à-dire appartenant au peuple romain et pas au peuple d'Ostie. Près du petit temple républicain a été trouvée également une inscription à Neptune et au Castor due au préfet de la ville Lucius Catius Celer, ce qui, une fois de plus, on voit qu'il dédie régulièrement à cet endroit, peut-être à l'occasion des Jeux ou Dieu sait quoi. Enfin, il existe un témoignage de Jean le Lydien au seuil de l'époque byzantine, d'après lequel les premiers de Rome fêtaient, selon le mode du Mayuma, les dieux Maya et Mercure à Ostie. Les premiers de Rome, pas d'Ostie. Autant d'attestations, par conséquent, de cultes de la cité de Rome célébrés ou gérés à Ostie par des magistrats de Rome, par l'empereur ou les premiers des Romains. Et ce qui est intéressant à Ostie, c'est que pour une fois, nous montons un peu dans le temps, à l'époque républicaine. Venons-en maintenant aux modalités des cultes dans l'espace suburbain. Ostie nous a fourni l'exemple de cultes célébrés à la fois à Rome et dans le port de Rome. Or, loin d'être spécifique et isolé, ce cas illustre au contraire une règle systématiquement appliquée dans la célébration des rites suburbains, comme j'essaierai de vous le montrer. Le premier exemple, tout commence par là, est celui de la Maliana, au 6e ou 5e mille. Deux déesses partageaient depuis l'époque augustéenne ce site, Fors Fortuna et Dea Dia. Les deux cultes ont en commun le fait que le rite de la déesse est dédoublé. Pour Fors Fortuna, apparemment, on commence le rite au Trastevere, dans le temple du premier mille, puis on se rend à la Maliana, au sixième mille de la Via Campana, pour y répéter ou continuer, nous ne savons, le sacrifice et festoyer jusqu'à tard. On aurait tendance à supposer que la coutume était déjà la même à l'époque républicaine, sans pouvoir en être sûr. Nous savons seulement que le temple existe depuis le IIIe siècle, avant notre ère. L'afflux de la population au jour anniversaire de la dédicace du temple ressemble à la description que nous avons trouvée chez le géomètre Frontin. Le cas du culte de Dea Dia est nettement mieux connu. Il peut servir de modèle. Il comprenait trois moments que les Arvales appellent sur leur protocole l'ouverture, la célébration et la clôture du sacrifice à Dea Dia. Et bien sûr aussi Mater Larum, mais elle n'est pas mentionnée dans les annonces, en tout cas. Le 17 ou le 19 mai, la confrérie se rassemblait à Rome, dans la résidence privée de leur magister, de leur président, de leur supérieur, littéralement, pour commencer, concipere, le sacrifice à Dea Dia. Vous constatez qu'un sacrifice est public et célébré le premier jour dans le cadre de la demeure privée du président annuel de la confrérie. Par cette mise en scène, sans doute imitée d'autres sodalités archaïques, enfin aristocratiques, comme celles qui se réunissaient, par exemple, lors des fêtes de Cybèle, la grande mère, au mois d'avril, ou bien héritées du passé Arval, on le sait, on mettait au premier plan le côté familial, domestique pratiquement, de ce sacerdoce. Le deuxième jour du sacrifice, qui avait lieu le surlendemain, les Arvales se rendaient dans le bois sacré suburbain et y célébraient le sacrifice. Le soir, ils revenaient dans la maison du président de la confrérie pour un banquet conclusif. Enfin, le troisième jour, à Rome, les Arvales concluaient le sacrifice. Le verbe employé est « consumare », ça ne veut pas dire « manger », mais « terminer », toujours dans la résidence du président. Le rite complet comprend donc trois phases. Et les Arvales, quand ils annoncent la fête, ils parlent toujours du sacrifice au singulier de Dea Dia. Il a trois jours, vous voyez, il dure trois jours et dans des lieux différents. Le rite complet comprend donc trois phases, un début, un sommet, une conclusion. Il commence à Rome. La célébration est particulière puisque l'on n'est pas dans un temple, mais à la table du président de la confrérie. Il n'est pas question à ce moment-là d'un sacrifice sanglant. Le deuxième jour, après avoir laissé passer un jour selon la coutume des fêtes qui s'étendent sur plusieurs journées, la confrérie se rend au bois sacré, dans le suburbium, y célèbre le sacrifice, le banquet sacrificiel et les jeux. Le soir même, un banquet dans la demeure romaine du président termine la journée. Et enfin, un troisième jour, sans intercalation d'un jour de repos pour casser le rythme festif, un nouveau banquet réunit les Arvales chez le président. Et cette fois-ci, il termine l'ensemble du rite. Cet exemple conduit à penser que célébrer un culte public dans le suburbium consiste à le commencer à Rome, le porter ensuite sur le territoire avant de le conclure à Rome. La ville est donc fortement liée à son territoire. L'exemple du culte Arval, qui est bien attesté dans nos sources, illustre le lien qui unit le territoire à la ville. Par rapport au culte de Fors Fortuna, qui se célébrait au même endroit auparavant, nous savons ce qui se passait à Rome pendant le premier et le dernier jour du service religieux. En allait-il pareillement pour Fors Fortuna elle-même ? On n'en a pas l'impression. Manifestement, les deux sacrifices avaient lieu le même jour. D'ailleurs, Ovide précise que les barques transportent les convivia juvenum, donc esquifs couronnés, emporter les jeunes convives qu'ils boivent force vin au milieu des eaux. On descend vers le sixième mille dans un sanctuaire qui est situé sur la berge du Timbre. Donc c'est très facile de le rejoindre comme cela. Et donc, si nous interprétons ces convivia juvenum, ces symposiums de jeunes gens, si nous interprétons ces lignes à la lettre, elles signifient que le premier service du banquet sacrificiel était terminé et que Ovide décrit ici le second, le symposium, le convive pendant lequel on buvait du vin. Et pour cette fête particulière, le convivium n'avait pas lieu dans le temple, mais se poursuivait apparemment pendant le trajet jusqu'au sixième mille. Et là, nous ne savons plus rien. On sait juste qu'ils reviennent le lendemain, la tête un peu embrumée de la banlieue. Donc les fêtes continuaient là-bas. On peut éventuellement, en traduisant de façon plus précise le premier vers, « Quamquito venerunt fortunae fortis honores », en traduisant « honores » de façon technique par « sacrifice », parce que souvent, chez les poètes, « honos », l'honneur, les honneurs, signifie le sacrifice. C'est ce que dit Servius, Cor Virgile, etc. Donc si nous travaillons comme les sacrifices de Fors Fortuna sont venus rapidement, nous pourrions y voir la preuve qu'il y a deux sacrifices, l'un en ville, puis à son banquet qui continue jusque là-bas, dans l'autre sanctuaire, où on sacrifie, et puis le banquet et la beuverie, le convive, continue. C'est possible, mais c'est fragile, et je voulais juste souligner la possibilité qui, lexicalement, est possible. Mais c'est peut-être aller un peu trop loin. Il était facile de rejoindre le temple en barque, comme Ovide le précise d'ailleurs. Quelques années, on pouvait faire le voyage jusqu'à Ostie. Donc, une fois le premier sacrifice achevé au premier mille, tous sautaient dans des embarcations et se laissaient porter 5 000 plus loin au deuxième temple de fortune. Ainsi, le lien était-il établi par une succession rapprochée des deux sacrifices. Comme des Hadias, fortune possédait un temple urbain et un temple suburbain. La seule différence tient peut-être au caractère propre de la confrérie qui se constitue le premier jour et se dissout le dernier. Ou alors cette complexité peut être la marque de la restauration qui avait voulu fonder le rite spectaculaire du sacrifice célébré par la Zarval et l'a arrangé de telle manière qu'il comprit un certain nombre d'allers-retours entre Rome et la banlieue pour bien montrer et exposer la piété du régime. C'était, si vous voulez, de la communication. Tout ça est possible, d'où les différences. Il reste cependant que les modalités de la célébration d'un rite effectué par une confrérie ne sont pas, à mon avis, les mêmes que ceux d'un rite célébré par un prêtre ou un magistrat. Soit dit en passant que nous ignorons complètement qui célébrait le sacrifice de Fors Fortuna. Un magistrat, le préteur urbain, par exemple, un prêtre, un collège d'artisans comme ceux qui sont attestés sur place par des inscriptions. Sans doute, ça a changé de culte en culte et nous ne pouvons que constater notre ignorance. Le sacrifice à Robigo, au cinquième mille de la Via Claudia, est célébré par le Flamine de Quirinus, comme nous l'avons vu. Nous ne savons par ailleurs rien d'un culte de Robigo en ville même. Adam Zulkowski a critiqué à bon droit l'interprétation d'un passage de Tertullien qui a été invoqué pour prouver que le sacrifice était suivi de jeux en l'honneur du dieu Mars et de Robigo. Il est question de Numa Pompilius qui fit des jeux à Mars et à Robigo. Et on a dit, il a le sanctuaire de Robigo, le bois sacré, comporte aussi des jeux, en se fondant sur ce passage. La courte phrase, Zulkowski a raison, ne dit rien de tel, c'est exact. Elle signifie vraisemblablement uniquement que Numa a institué des jeux pour ces deux divinités indépendamment. Parce que ce que voulaient retrouver aussi Vissova et d'autres dans ce passage, c'est que c'était des jeux à Mars et à Robigo, une unité. Et à ce moment-là, vous comprenez, on pouvait mettre Mars en relation avec la frontière, de nouveau, le 6e, 5e mille, etc. Donc là, sur ce point-là, il a tout à fait raison. Mais on ne peut écarter le fait que ces jeux étaient bien célébrés au bois sacré de Robigo, à Robigo, peu importe que Mars y soit, comme lors du sacrifice à Deadia, autre ressemblance. Sur le calendrier épigraphique de Préneste, Palestrina, l'érudit Verius Flaccus écrit en effet au début de notre ère à propos de ce jour qu'un sacrifice et des jeux, au cinquième millière, il célèbre un sacrifice et des jeux avec des cursores majeurs, senior et junior, on ne sait pas ce que c'est du tout. Hein. Mais le calendrier dit en toutes lettres qu'un sacrifice et des jeux avec des coureurs juniors et seniors étaient célébrés. Donc l'objection de Zulkowski ne vaut que pour Mars, mais pas du tout pour les jeux à Robigo. Ce qui explique, à en croire Ovide, que le sacrifice de Robigo attirait du monde, parce que quand il y a des jeux, il y a des paris, c'est un moment de fête. Le mode de célébration, c'est ça qui nous intéresse, est donc le même dans sa structure globale qu'au 5e île ou 6e île de la Via Campana. Une autre déesse, Anna Perenna, peut nous offrir un autre exemple des doubles sanctuaires. Un certain nombre d'éléments font défaut, mais il existe dans le dossier un problème qui paraît insoluble. Nous en avons déjà brièvement parlé. Le bois sacré d'Anna Perenna est situé au premier mille par le calendrier du Vatican, Via Flaminia ad lapidem primum, pierre miliaire de la Via Flaminia, à proximité du Tibre d'après Ovide, non loin de Térive, Tibre venu de l'étranger. Ce qui place ce lieu de culte approximativement sur la carte de Rome entre le mausolée d'Auguste et la place du peuple, du côté du Tibre. Mais la découverte du nymphée d'Anna Perenna au Parioli, c'est en haut, entre le 2e et le 3e mille de la Via Familia, par un diverticule en direction de l'est, crée une difficulté. La situation de ce nymphée est inconciliable avec les données épigraphiques et littéraires, car il est impossible de supposer que le bois sacré d'Anna Perenna ait commencé à la place du peuple environ et ait continué jusqu'au Parioli. Comme Carlo Pavolini, dans un article récent, l'a souligné, de nombreuses villas et fermes se sont insérées entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère dans toute cette zone et rendent une telle hypothèse tout à fait impossible, parce que si tout ça était un bois sacré, on ne verrait pas toutes ces villas et fermes avec leurs champs, etc., s'installer, et leurs jardins s'installer par là. Pavolini suppose que le bois sacré aurait eu un rôle formel un pôle formel au premier mille, place du peuple, disons, et un pôle secondaire au Parioli. La distinction est ainsi établie entre deux pôles, dont l'un serait formel et l'autre secondaire, correspond en fait aux modalités des cultes célébrés dans le suburbium, si nous réfléchissons. Le culte peut posséder un centre urbain et un autre centre dans le suburbium. Faute d'autres informations, je propose pour l'instant de résoudre ainsi la difficulté. Nous ignorons dans ce cas-là si la fête commençait à la place du peuple, puis on se déplaçait jusqu'au 3e mille environ, et on répétait la fête. Je ne sais pas, on ne le sait pas, mais c'est une possibilité, on peut en tout cas en formuler l'hypothèse. Et donc on peut ajouter aussi Anna Perenna à notre liste. De Caenina et de Fortuna Muliebris, nous ne pouvons malheureusement rien dire. De même, à Caenina, ce sont sans doute les consuls qui officient à côté des Caeninenses. D'autre part, le culte Fortuna Muliebris était probablement célébré par une matrone éminente, sans doute même l'impératrice éventuellement assistée des Vierges Vestales, mais ce sont de pures hypothèses. Ces cultes ne peuvent donc nous donner aucune information. Pour les Terminalia, en revanche, sur la Via Laurentina, nous savons que le dieu disposait d'un lieu de culte urbain. Son autel se dressait dans le Capitole même, dans le temple de Jupiter même. Nous ignorons une fois de plus qui célébrait ce culte. Le Flamine de Jupiter ou un magistrat comme le prêteur urbain. Nous pouvons présumer qu'un sacrifice avait, le jour de la fête, également lieu au Capitole, sur l'autel du dieu. Ce serait même logique. Le célébrant partait-il de là pour le 6e mille ? On est tenté de le dire, mais je ne peux mettre qu'un point d'interrogation parce que pour l'instant, nous n'en savons rien. La déesse Laverna, que nous avons vue plusieurs fois en passant, avait un bois sacré sur la Via Salaria, à une distance inconnue de Rome, mais elle possédait aussi un hôtel près de la porte Lavernale. Oui, voilà la porte Navernale. Et c'est tout ce que nous en savons, même si l'on peut admettre une fois de plus qu'il y avait le même jour deux sacrifices, l'un en ville, sur cet hôtel près de la porte Lavernale, ou sur l'Aventin, l'autre dans son bois sacré, vers l'est, sur la Via Salaria. Si nous considérons toutes ces célébrations, nous constatons que Fors Fortuna, Dea Dia, Robigo, Terminus, Laverna possédaient des lieux de culte en ville et sur le territoire à des distances variables. Il existe manifestement un lien entre les deux lieux de culte et sans doute, comme chez les Arvales, Fors Fortuna et Terminus, une double célébration du sacrifice, urbain, suburbain. La manifestation religieuse sur le territoire se voulait la répétition d'un acte religieux urbain. Ce dernier qualifiait en quelque sorte la célébration faite sur le territoire. Dans le cas des Arvales, nous constatons même une modalité particulière du sacrifice selon qu'il est commencé ou conclu dans l'intimité de la résidence du magistère annuel de la confrérie ou bien se déroule dans le bois sacré du cinquième île. Sacrifice non sanglant d'un côté, sanglant de l'autre. Nous ignorons malheureusement comment se déroulaient les cultes urbains des autres cas que nous avons cités. Mais il existe d'autres attestations de cette pratique qui dépassent l'anneau du 5e, 6e île ou du 1er. Les jeux et sans doute d'autres sacrifices célébrés à Boville, sur la Via Appia, qui était devenu depuis l'année 16 de notre ère le siège des Sodales Augustales, ceux qui, la confrérie qui célébrait le culte d'Auguste, devaient également correspondre aux célébrations doubles illustrées tout à l'heure. Il est peu probable que les fêtes relatives au divin Auguste, par exemple les Ludi Augustales, les Jeux d'Auguste du 10 octobre, n'aient pas été présidées par les Sodales Augustales à Rome et à Bovillè, où il existait un cirque que nous avons un jour visité. On peut supposer la même chose pour l'anniversaire de la consécration d'Auguste et d'autres empereurs divinisés. D'autre part, les sacrifices liés aux anniversaires du prince régnant ont également pu être célébrés au même endroit. Enfin, donc Bovillè, on a vraisemblablement la double célébration, mais à 10 000 déjà de Rome. Enfin, certaines fêtes de Rome étaient également célébrées à Ostie, nous venons de le voir. Le 27 février, on célébrait à Rome l'anniversaire du temple des Castores sur le Forum romain. Or, comme nous l'avons vu, le même jour, le préteur urbain et plus tard le préfet de la ville dirigeaient les jeux de Castor et de Pollux et peut-être de Neptune à Ostie. Cette célébration est formellement attestée. Le préteur urbain Catius Sabinus, consul pour la deuxième fois en 216, vous vous rappelez, son poème l'a rappelé explicitement.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institution et Société de la Rome antique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France. Réalisation, Laetitia Coya. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain avec une conférence donnée à la Bibliothèque nationale de France sur le thème « À table ». Et nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.